bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Mobilisation générale et sans précédent pour la justice. Aujourd'hui, magistrats, greffiers, avocats en grève pour réclamer des moyens et ne pas sombrer dans le burn-out. Témoignage dans un instant et réponse du ministre de la Justice dans le grand entretien.
Oui, Éric Dupond-Moretti à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous, le standard vous attend 01 42 45 24 7000, pourtant le numéro que je connais le mieux. Et les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter.
Quand les faux vaccinés faussent les données, leur nombre n'est pas marginal. À l'hôpital, les services de réanimation s'en inquiètent. Dans ce journal aussi, Emmanuel Macron sur TF1 ce soir, mais à quand une candidature officielle et un projet? Les marcheurs attendent. Le leader d'un groupuscule d'extrême droite en garde à vue, soupçonné d'avoir participé aux violences du meeting d'Éric Zemmour il y a 10 jours avec son groupuscule Les Zouaves de Paris. Profession visio-vendeur pour parler aux clients derrière leur écran, et puis les Monty Python dans notre calendrier de l'Avent.
France Inter.
Des délais insupportables pour ceux qui attendent et une justice rendue au lance-pierre. Faute de moyens, voilà ce que dénoncent depuis des années les magistrats et les greffiers. Aujourd'hui, ils seront rejoints par les avocats, tous les métiers des tribunaux réunis pour une journée de grève et de manifestation. 3 semaines après la publication d'une tribune en forme d'électrochoc sur le mal-être des magistrats. Depuis, presque 2/3 d'entre eux l'ont signé, dont beaucoup de jeunes magistrats comme Camille Martineau, juge d'instruction dans le département de l'heure, qu'a rencontré Laurélie Carive.
À 29 ans, Camille Martineau est l'une des 3 juges d'instruction du tribunal d'Évreux.
Mais voilà, donc là, il y a les 125 dossiers qui sont actuellement dans le cabinet.
125 dossiers dont elle a seule la charge. On considère pourtant qu'au-delà de 90, c'est l'engorgement. Et de fait, la juge court un sprint sans fin pour en même temps suivre les enquêtes, ordonner des expertises, entendre les personnes mises en cause et celles qui ont porté plainte.
Quand je convoque une personne, donc c'est entre 2h et 2h30 à chaque fois. Ça peut être plus long, c'est rarement plus court. Et je me refuse à limiter le temps d'écoute que j'accorde aux personnes que je convoque. Mon métier perdrait complètement de son sens.
Inévitablement, les délais s'allongent. 150 personnes attendent toujours leur convocation. Or, on parle ici de faits graves, de violences sexuelles dans de nombreux cas.
Ça reste un poids supplémentaire et parfois un peu une forme de honte quand on rencontre les personnes, que ça fait 6 ans qu'ils ont sollicité le recours de la justice et qu'il n'y a toujours pas de réponse de notre part.
En arrivant à Évreux, à sa sortie d'école, Camille savait qu'elle héritait d'un cabinet déjà surchargé, mais le problème va bien au-delà.
Moi, la grande désillusion que j'ai rencontrée, c'est de me rendre compte que peu importe finalement les fonctions que je vais exercer, la situation, elle sera compliquée et la charge, elle sera de toute manière déraisonnable, partout.
Si de plus en plus de jeunes magistrats envisagent une reconversion, Camille assure, à ce jour, il n'en est pas question, elle tiendra bon.
Et les représentants des magistrats, des greffiers et des avocats veulent voir Bruno Le Maire à Bercy et manifesteront devant son ministère aujourd'hui.
France Inter, il est 8h03. Florence, ils ont le pass sanitaire mais ne sont pas vaccinés.
Combien sont-ils en France à prendre le risque de mourir à l'hôpital comme cette femme à Garches la semaine dernière qui n'avait pas dit que son pass était faux? 400 enquêtes sont ouvertes pour démanteler les réseaux qui les fournissent, parfois grâce à des médecins, et trop de faux vaccinés se retrouvent dans les service de réanimation, Hélène Chevalier.
Ce n'est plus un phénomène marginal, constate le professeur Laurent Muller. Comme bon nombre de chefs de service de réanimation, il a vu ces dernières semaines, au CHU de Nîmes, plusieurs patients gravement atteints et faussement vaccinés.
Moi, je le chiffrerai aux alentours de 5, peut-être 10%. Le quantifier, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a peut-être des patients qui ne nous l'ont pas dit et à l'heure où je vous parle, on ne le sait pas. Mais en tout cas, tous les médecins qui travaillent dans des unités Covid le savent, en ont vu. Il faut que la population sache que ce défaut d'information peut les menacer directement.
Et avoir des conséquences dramatiques, comme pour cet homme de moins de 40 ans que son service n'a pas pu sauver.
Il a fini par nous le dire parce que se voyant dans un état respiratoire très dégradé, il s'est à juste titre inquiété. On est vraiment chez des patients qui ne doivent pas, en théorie, mourir de ça.
Cacher son véritable statut vaccinal, c'est se priver de l'administration précoce de traitements comme les anticorps monoclonaux. C'est aussi fausser les données sur l'efficacité des vaccins, souligne le professeur Olivier Johannes Boyau, chef du pôle anesthésie-réanimation au CHU de Bordeaux.
Ça peut avoir des conséquences sur les décisions de santé publique qui peuvent être prises par le gouvernement, parce qu'on pense à tort que le vaccin n'est pas efficace, alors qu'en fait une proportion importante de patients se disant vaccinés ne le sont pas. Donc ça change quand même beaucoup de choses.
Selon les données officielles, près de la moitié des patients actuellement en réanimation ne sont pas vaccinés. Une proportion qui, selon ses chefs de service, pourrait donc être bien supérieure.
Et soupçonnés d'avoir fourni de faux passes sanitaires, deux pompiers de la caserne de Béziers sont suspendus depuis 15 jours. Information France Bleu Hérault. Des passes qui vont sauter aujourd'hui pour 400 000 personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas fait leur rappel de vaccin dans les temps. C'était la date limite. Et c'est aussi ce mercredi que les enfants les plus fragiles vont théoriquement pouvoir commencer à être vaccinés. La logistique est toujours en train de se mettre en place. 63 000, ça c'est le nombre de contaminations enregistrées hier, le pic de la cinquième vague, selon Olivier Véran. Mais impossible de dire si les chiffres vont redescendre ou se stabiliser. D'ores et déjà, les hôpitaux de Corse redoutent de ne plus pouvoir faire face et demandent du renfort en personnel face à l'explosion des contaminations sur l'île. Tout cela sans compter l'arrivée du variant Omicron. Pour s'en protéger, la Grande-Bretagne impose une quarantaine de 11 jours à tous les voyageurs en provenance des pays à risque. Les frais sont à leur charge, 2 600 euros, et les conditions relèvent davantage de la détention que de l'isolement, comme en témoigne Pauline Delorme, chercheuse à l'université de Southampton, revenue d'une mission en Namibie et prise au piège dans sa chambre d'hôtel, ambiance carcérale, Marie-Pierre Véraud.
Une semaine qu'elle range son frein dans sa chambre de quarantaine. L'hôtel a dû être choisi sur une liste imposée par le gouvernement britannique, puis rejoint sous escorte dès l'atterrissage.
C'était un peu impressionnant parce qu'on devait marcher en ligne entre ses gardes pour sortir de l'aéroport.
Direction l'hôtel de quarantaine, aéroport de Gatwick.
Et donc là, un par un, on s'est enregistré et on a été ensuite escorté par un garde jusqu'à notre chambre.
Une chambre avec vue sur les pistes, mais la fenêtre ne s'ouvre pas. Pour respirer un peu d'air frais, il faut appeler un garde et surtout se montrer patient.
Comme ils sont en sous-effectif, entre le moment où on les appelle et le moment où un garde vient nous chercher, on attend en moyenne entre 2 et 3 heures. Et une fois dehors, on a le droit à 15 minutes d'exercice. Donc généralement, les gens marchent tous en rond dans le même sens. Et au bout de 15 minutes, un gardien nous appelle par notre numéro de chambre. Tout ça, c'est vraiment une très forte restriction de nos libertés, à mon sens.
Doublement vaccinée, négative à chaque test, Pauline Delorme ne comprend pas. D'autant que son vol de Namibie a fait escale à Francfort. Pour rejoindre Londres, elle est donc montée dans le même avion que des dizaines d'autres passagers qui ont eux quitté l'aéroport sans contrôle. Une situation absurde, voire illégale, pense-t-elle. Pauline Delorme a rejoint les listes de passagers que forme un cabinet d'avocats. Il porte plainte pour atteinte aux libertés contre le gouvernement britannique.
D'autant que le variant Omicron circule déjà largement au Royaume-Uni. 200 000 personnes seraient contaminées chaque jour, selon les autorités sanitaires. Un variant qui fait fermer les écoles une semaine plus tôt aux Pays-Bas. Vacances anticipées au 20 décembre. Enfin, des nouvelles un peu rassurantes côté vaccin. Selon une étude menée en Afrique du Sud, le Pfizer est certes moins efficace contre ce variant, mais protégerait toujours à 70% contre les formes graves de la maladie.
Il est 8h08, 2 heures de tribune à la télé. Florence, pour Emmanuel Macron ce soir.
Interview enregistrée, diffusée en prime time et on a bien entendu ce qu'en pensaient ses concurrents à la présidentielle. Lui qui n'est toujours pas candidat et qui fera ce soir le bilan du quinquennat en se projetant sur la suite. Un président déjà en campagne, même s'il s'en défend, mais dont les troupes attendent maintenant le projet pour monter au front, Simon Le Baron.
5 ans de plus réclament depuis déjà 3 mois les tracts et les affiches de La République En Marche. 5 ans de plus, d'accord, mais pour faire quoi? Les retraites, la dépendance, la réforme institutionnelle? Tout cela ne fait pas un programme. On ne peut pas se contenter de ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, avertit le patron des députés Modem, Patrick Mignola. Emmanuel Macron n'est pas pressé de clarifier les choses, bien perché sur son aventin présidentiel. Alors, pour tromper l'ennui, ses troupes phosphorent et semblent s'accorder sur un point essentiel. La carte de la continuité, de l'unité, de l'apaisement ne suffira pas. Il faut une rupture, juge un cadre macroniste. Reste à trouver le sujet, l'idée nouvelle qui fera décoller la fusée. Et pour l'instant, on navigue à vue, se lamente un autre. Chaque chose en son temps, répondent les proches du président. Ce soir, c'est le droit d'inventaire. Emmanuel Macron veut rendre des comptes aux Français. Avant de se projeter, il doit d'abord jouer l'humilité.
Simon Le Baron, ils ont fait le coup de poing au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte il y a 10 jours. Les Zouaves de Paris, groupuscule d'ultra-droite, dont le leader présumé est en garde à vue depuis hier après-midi. Il s'appelle Marc de Cacret, déjà condamné pour violence, soupçonné cette fois d'avoir tabassé des militants d'SOS Racisme à Villepinte, avec d'autres membres de ce groupe, aux idées radicales et aux méthodes proches du hooliganisme, explique le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite.
Ces zouaves sont un groupe qui ressemble fort à une bande de la rue, dont l'objectif est précisément de provoquer des bagarres avec tous ceux qu'ils qualifient de gauchistes, évidemment les antifascistes, de gauche et d'extrême gauche, et puis l'ensemble des populations qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui appartiennent à des minorités, les soutiens de la cause LGBT, etc., etc. Donc c'est un mouvement véritablement groupusculaire. Le noyau dur est très faible, hein, c'est une vingtaine, une trentaine de personnes. On a vu qu'à Villepinte, on avait une cinquantaine de personnes qui ont posé sur la photo. Ça, c'est vraiment la configuration maximum. Donc très probablement, comme des militants antifascistes avaient appelé à manifester aux alentours du parc de Villepinte, les Zouaves ont vu là une occasion, oui, d'aller à la castagne. Mais l'erreur grossière de la protection d'Éric Zemmour, ça a été effectivement de laisser rentrer ces gens dont le leader est vraiment connu comme le loup blanc dans tous les milieux, parce que là où ils sont, les Zouaves, il y a toujours de la bagarre.
Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, avec Augustin Arrivé. Trois nouveaux témoignages accablants contre Patrick Poivre d'Arvor, publiés ce matin par Libération. Trois femmes qui l'accusent d'agression sexuelle ou de viol, fait qu'il ne serait pas prescrit pour l'une d'entre elles. Le prix Sakharov sera remis aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg, attribué cette année à l'opposant russe Alexei Navalny. C'est sa fille qui viendra le chercher. Navalny, survivant d'une tentative d'empoisonnement en 2020, purge une peine de 2 ans de prison dans une sinistre colonie pénitentiaire de Russie. Mais il trouve le moyen, même du fond de sa cellule, d'un quartier de haute sécurité, de donner des nouvelles de lui régulièrement sur les réseaux sociaux, Sylvain Tronchet.
Il y a 6 jours, on a revu Alexei Navalny. C'était sur l'écran de télévision d'un tribunal où il comparaissait à distance suite à une plainte qu'il avait déposée pour protester contre ses conditions de détention. L'opposant avait les traits tirés, mais comme souvent, il a plaisanté en voyant un photographe dans la salle. « Veux-tu que je mette mon chapeau pour que la photo soit meilleure ?» lui a-t-il lancé. Alexei Navalny raconte également sa détention sur son compte Instagram grâce à des messages passés à son avocat. Il y a 3 jours, il se lamentait devant l'envolée des prix de la nourriture qu'il doit acheter en prison. À ses 3 millions d'abonnés, il a aussi raconté sa grève de la faim, le refus de l'administration de le soigner, sa femme, qu'il ne peut voir qu'une fois par trimestre à travers une vitre. Son état de santé semble meilleur qu'il y a quelques mois, mais un reportage de la chaîne de télévision indépendante Dojd, le mois dernier, a révélé que sa détention reste particulièrement éprouvante. Des anciens détenus expliquaient que l'administration leur demandait de harceler Navalny au quotidien pour le pousser à la faute. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Veolia va bien racheter Suez, son concurrent historique, et devenir un géant de l'eau et des déchets. Bruxelles a donné son feu vert hier soir. Seule condition, vendre la quasi-totalité des activités de Suez en France pour maintenir la concurrence dans le secteur. Acheter en vrai ou en ligne, de plus en plus, nous cliquons pour consommer. 14% des achats se font aujourd'hui sur Internet. C'est dire si la digitalisation est un enjeu important dont on parle aux Assises du commerce à Bercy en ce moment, consacré à l'emploi et à la formation. Or, on peut aujourd'hui devenir visio-vendeur. Le groupe Fnac Darty a formé 1500 salariés, Agnès Soubiran, pour accompagner les acheteurs à distance.
Ça, c'est la petite sonnerie qui vous dit, voilà, le client cherche à vous joindre.
Veste rouge, téléphone portable à la main, Saïda Ouriachi, vendeuse au rayon électroménager, se tient prête à répondre à toutes les questions en direct. Si le client a le choix entre texto ou visio, elle doit automatiquement activer sa caméra.
Les premiers vidéos chat, je me rappelle, c'était ultra gênant parce qu'on est chez le client est dans son salon, dans sa cuisine, et donc du coup il vous parle, il est un peu en pyjama et tout, donc c'est un peu gênant, mais après on s'habitue.
D'où cette formation d'une heure prodiguée lors du deuxième confinement, suivie de sessions régulières en ligne, à la fois sur le plan technique et sur le plan commercial. Maxime Brun, directeur parcours et expérience client.
On ne parle pas exactement pareil à un client quand on est physiquement dans un magasin, avec lui, dans un rayon, que quand on lui parle à distance. Et donc ça, il y a des petites techniques sur lesquelles on a formé plus de 1500 vendeurs maintenant aujourd'hui pour qu'ils s'approprient véritablement la manière de converser avec des clients en visio.
Formation délivrée d'abord sur la base du volontariat. Stéphane Ordinana dirige le magasin Darty Leterne à Paris. 15 de ses 71 salariés ont été formés.
Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec la technologie et donc avec les téléphones portables. Donc certains collaborateurs ne veulent pas le faire. Pour tous les collaborateurs récents, il n'y a eu aucun problème.
Ce module s'inscrira désormais dans le parcours de formation classique d'un vendeur Fnac Darty.
Agnès Soubiran, pas de vainqueur cette année tournée à Koh-Lanta sur TF1, l'émission de télé-réalité, 20e saison, entachée par la triche de certains participants qui avaient mangé en cachette. Elle s'est achevée sur un goût amer. Hier soir, les 100 000 euros de gains du jeu seront versés au fond pour Bertrand Kamal, du nom d'un ancien candidat mort d'un cancer du pancréas en 2020. Enfin, on continue à ouvrir le calendrier de l'Avent du service culture avec une bonne tranche de rigolade façon Marmalade ce matin. C'est l'intégrale de la série culte britannique Monty Python Flying Circus. Les Monty Python qui sont à l'humour, ce que les Beatles sont à la musique. Alexandra Akoun.
By George, si Tonton a l'esprit subversif et raffole d'absurdité, ce coffret est fait pour lui, l'intégralité des 45 épisodes des Monty Python Flying Circus, ou plutôt devrait-on dire
Monty Python's Flying Circus.
Série complètement loufoque diffusée sur la BBC entre 1969 et 1974. Cadeau parfait également si vos ados sont dingues de comédie pour leur montrer à quel point sans ces Bloody Brits, exception faite de Terry Gilliam, seul américain de la bande, Brice de Nice, Palma Show et autres Kaamelott n'auraient jamais vu le jour. Une bande de six garçon à la version surdéveloppée de l'administration et des conventions qui adore moquer la grande bourgeoisie britannique comme dans le ministère des démarches futiles, des silly walks, sketch devenu un de leurs classiques.
I have a silly walk.
I see. May I see your silly walk?
Yes, certainly, yes.
Inutile de chercher la version française, on s'adresse là aux puristes, même si John Cleese et ses acolytes cessaient parfois aux français pour mieux se moquer de nous.
Bonsoir, ici nous avons les dirhams modernes de mouton.
Tout ici a été remasterisé en HD, et puis il y a les bonus, 5 heures d'inédits et des tonnes d'anecdotes. On y apprend par exemple que par souci à l'époque d'économie de bande vidéo, la BBC a bien failli effacer ces épisodes qui n'avaient pas vocation à être rediffusés. La version DVD comprend 11 disques, 7 en Blu-ray, pour découvrir ou redécouvrir cette série qui changea à tout jamais l'humour à la télévision.
Voilà, Monty Python Flying Circus, c'est un beau
Circus.
Cadeau.
Circus.
Python. Beau cadeau entre 70 et 80 euros selon les formes.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Attention au brouillard, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, très nombreux, très épais, hein, surtout de la Bretagne au centre, au nord-est et autour de la Garonne, mais aussi dans le Cantal, parfois à peine 100 mètres de visibilité. Ailleurs, les brumes ou les nuages bas sont également très présents ce petit matin, sauf en montagne et dans le sud-est, et des Pyrénées aux Alpes et autour de la Méditerranée, vous allez voir le soleil se lever. Au plus bas, on relève moins 9 à Mout dans le Doubs, moins 2 en Haute-Loire, alors qu'il fait 12 à Sospel dans les Alpes-Maritimes et 10 à Dunkerque. Il fait moins 1 à Mont-de-Marsan et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Montpellier. Un petit degré à Bordeaux, 4 à Strasbourg, 5 à Quimper et 7 à Paris.
Et peu d'évolution dans l'après-midi.
Oui, toujours, Nicolas, des grisailles au nord de la Loire, mais quand même, on peut espérer quelques éclaircies sur la Bretagne et au pays de la Loire. Et puis, on attend toujours des bruines près des côtes du Nord-Pas-de-Calais. En revanche, au sud d'une ligne qui relie le bassin d'Arcachon à la Haute-Savoie, vous profiterez du soleil jusqu'à la Méditerranée. Et en journée, côté du Mercure, ça remonte un petit peu avant le refroidissement attendu pour la semaine prochaine. Vous aurez 2 à Bourg-en-Bresse, 3 à Ambérieu, 5 à Grenoble, 6 à Bourges, 7 à Clermont-Ferrand à Bordeaux, 11 à Saillagousse dans les Pyrénées.